Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Bonjour au nouveau. Aujourd'hui, on s'intéresse au livre de Jérémie. On a vu la semaine passée le livre d'Isaïe. On est allé un peu vite dessus. Malheureusement, on est vraiment pris par le temps. Je suis vraiment désolé. J'aimerais pouvoir passer davantage de temps sur chaque livre. Il faudrait qu'on puisse, je disais tout à l'heure à quelqu'un qu'il faudrait à peu près 3 heures par semaine si on voulait faire ce travail convenablement, c'est-à-dire un travail de lecture suivi de la Bible avec introduction, commentaire, etc. Je ne parle pas de faire un commentaire touffu. Pour ça, il faudrait prendre un livre et on ferait un cours tout entier sur un livre. Mais je parle simplement de ce projet, cette traversée de la Bible qui vous permet d'avoir le nez dans le texte biblique, de pas simplement être perdu en ouvrant votre Bible, en se demandant ce qui se passe, mais d'avoir cette idée un peu des enjeux, de la progression, de l'évolution, du vocabulaire qui est employé, des structures. Alors aujourd'hui, on s'intéresse au livre de Jérémie. Le livre de Jérémie, c'est un livre assez complexe au niveau de sa structure, en fait. D'abord, on se rend compte qu'il a une histoire rédactionnelle qui est assez complexe. Contrairement au livre d'Isaïe, la semaine passée, on a vu quand même qu'il y avait quand même deux sections majeures du livre d'Isaïe avec des styles très différents. Donc, c'est très facile à identifier. Pour le livre de Jérémie, c'est un peu plus difficile. On observe quand même une rupture dans le style à partir du chapitre 25, où on commence à avoir des indications historiques. Ça s'est passé la énième année du règne de tel roi, et à ce moment-là, tel jour ou tel mois ou telle année, la parole du Seigneur a été adressée à Jérémie, ainsi, etc., etc. Donc ça, on repère cette rupture au niveau du style. Donc ça permet quand même d'établir deux sections majeures dans le livre de Jérémie, jusqu'au chapitre 24 d'une part, et puis à partir du chapitre 25. Donc le chapitre 25, c'est le chapitre de transition. D'ailleurs, si on regarde le chapitre 25 lui-même, on se rend compte qu'il fait une sorte de synthèse, de résumé de toute l'activité prophétique, de tout le ministère prophétique de Jérémie. Donc ça peut être à la fois une sorte de conclusion, mais en même temps c'est aussi une sorte d'introduction, puisque ça débute cette section où on a des événements qui sont datés et des oracles qui sont datés. Donc soit c'est le chapitre d'introduction d'une section primitive. On pourrait imaginer que cette section avait d'abord été rédigée et que le chapitre 25 était le chapitre d'intro et qu'ensuite les 24 premiers chapitres ont été ajoutés après, ou alors que c'est un chapitre de transition où on fait la transition à partir du chapitre 24 et puis jusqu'au chapitre 24 et puis vers la nouvelle section. Alors si on regarde ces 24 premiers chapitres, on se rend compte effectivement qu'on a affaire à des oracles essentiellement contre le peuple de Juda. Contre Israël, contre le peuple d'Israël et de Juda, Dieu explique à son peuple grosso modo ce qui ne va pas. On va y revenir dans quelques minutes. Cela dit, c'est un peu ce qu'on trouve à partir du chapitre 25 et 26 notamment, mais la différence, c'est que dans cette deuxième section, on a un ancrage historique. On dit à chaque fois ça s'est passé à telle époque, sous tel roi. Il y a des éléments biographiques également. Hein. Il y a des mésaventures. Jérémie est arrêté, il est mis dans une citerne, dont le force. Donc on voit des éléments de sa vie. À vrai dire, c'est probablement le seul prophète de ce corpus, des prophètes postérieurs. Donc on va étudier. On a vu Isaïe, mais on va voir aussi Ézéchiel, les 12, etc. C'est le seul prophète dont on a autant d'indications sur son histoire, ce qui s'est passé, à quel moment. Il y a des épisodes avec son scribe, qui s'appelle Baruch, qui est un personnage qui est devenu célèbre aussi dans la littérature juive. Il y a des livres qui portent son nom. Donc on a beaucoup d'informations sur ce prophète-là, alors que les autres prophètes postérieurs, on sait très peu de choses. Pour les prophètes antérieurs, on avait des choses. Pensez à Élie ou Élisée, ou le prophète Samuel. On a lu le livre de Samuel et des rois, et là, on nous raconte leur vie, justement. Donc là, on a, dans cette deuxième section, on a un genre littéraire parfois un peu hybride, où on a certains textes narratifs qui sont comme on a eu l'habitude dans les livres de Samuel et des rois. Et puis on alterne avec malgré tout des oracles prophétiques. Donc voilà pour ces deux sections majeures, grosso modo. Jusqu'au chapitre 24, chapitre 1 à 24, d'une part, et puis chapitre 25 à 52, d'autre part. Alors le chapitre premier lui-même est un chapitre qui raconte la vocation du prophète Jérémie. On en avait parlé la semaine dernière à propos d'Isaïe, en disant que c'est au chapitre 6 d'Isaïe qu'on a le récit de sa vocation. Et on s'était fait la réflexion en disant finalement, ça aurait été logique de le mettre en tête on commence par présenter, bien voilà, je vous présente Isaïe et voilà le récit de sa vocation. Sauf que dans le prophète Isaïe, on avait ces 5 premiers chapitres qui servaient d'une sorte de grande introduction, d'une grande fresque qui est une sorte de synthèse et de résumé. Alors là, du coup, on a dès le premier chapitre, on nous dit, voilà, parole de Jérémie, et on nous explique à quelle époque il a vécu au verset 2. Il est question de Josias, Joachim, Sédécias et de l'exil à Jérusalem. Donc autrement dit, quand on parle de Josias, la 13e année de son règne, on est grosso modo on est à la fin du 7e siècle avant notre ère, dernier tiers du 7e siècle avant notre ère, et puis jusqu'à l'exil de Jérusalem, c'est-à-dire le 587 avant notre ère. Donc vous voyez, on est à cheval entre la fin du 7e siècle et le début du 6e siècle, c'est vraiment la fin du royaume de Juda. C'est-à-dire qu'on est un siècle après la destruction du royaume du Nord, donc on n'en est plus à avertir le royaume du Nord de l'arrivée des Assyriens. Si vous regardez le prophète Isaïe qu'on a vu la semaine dernière, il passe du temps en disant « Attendez, mais si vous faites pas attention, si vous ne vous repentez pas, les Assyriens vont venir. Il n'y a plus besoin de prophétiser ça, puisque on est un siècle plus tard, le royaume du Nord a disparu. » Ne reste que le royaume de Juda, mais les mêmes avertissements prennent place, le peuple est infidèle, et vous allez voir qu'on va retrouver les mêmes thématiques que dans le prophète Isaïe, donc je ne veux pas trop m'y étendre, mais on va faire les mêmes reproches au peuple, avec les mêmes avertissements et les mêmes conséquences, à savoir la déportation. Donc on va retrouver ces thèmes-là. Le récit de la vocation est moins spectaculaire que celui d'Isaïe. Dans Isaïe, il y a cette vision, les séraphins, ces espèces d'anges à 6 ailes, et puis ce charbon ardent, etc. C'est un côté très, très théâtral. Ici, il n'y a pas un côté très théâtral, mais il y a un côté, malgré tout, très fort du choix, de la vocation, de l'appel du prophète. Dieu dit... avant, au verset 5, « Avant que je ne te façonne dans le ventre de ta mère, je t'avais distingué. Avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais fait prophète. » Autrement dit, la vocation de Jérémie, elle date d'avant sa naissance. Il y a une prédestination. Je t'ai destiné avant. Donc c'est très intéressant dans les débats théologiques sur la question de la prédestination. Est-ce que Dieu connaît à l'avance? Est-ce qu'il appelle à l'avance? Est-ce qu'il choisit? S'il choisit, s'il fait des choix, s'il... prévoit une destinée à l'avance, est-ce qu'on est contraint d'entrer dans cette destinée ou est-ce que malgré tout on a un choix, etc. etc. Le prophète répond « Je suis trop jeune », verset 6, mais verset 8, Dieu lui répond « N'aie pas peur, je suis avec toi ». On retrouve un élément commun avec Isaïe au verset 9, « Le Seigneur étendit la main et toucha ma bouche ». Rappelez-vous, dans le récit de la vocation d'Isaïe, on a aussi le fait de toucher les lèvres, qui était un symbole de purification. Le prophète... il a cette responsabilité, c'est quoi le prophète, c'est quoi être prophète, c'est parler, donner les paroles qui viennent de Dieu. C'est ça la définition du prophète. Le prophète, il est là, les paroles qui sortent de sa bouche ne sont pas ses propres paroles, elles viennent de Dieu. C'est la définition même du prophète, on est au cœur même du ministère prophétique, d'où l'importance que les paroles qui sortent de la bouche viennent effectivement de Dieu. Donc il y a cette purification, cette pureté qu'on avait vue chez Isaïe, qu'on retrouve... chez Jérémie, on nous dit à la fin du verset 9, j'ai mis mes paroles dans ta bouche. C'est ça la définition d'un prophète. Et évidemment, on va revenir là-dessus sur la question des faux prophètes. Isaïe avait déjà condamné les faux prophètes. On aura une condamnation encore plus sévère chez Jérémie des faux prophètes, c'est-à-dire des gens qui prononcent des paroles en prétendant que ça vient de Dieu, et ça n'est pas le cas. Alors au chapitre 2, on retrouve donc les chapitres 2 à 24. Alors il y a des différences assez notoires dans le livre de Jérémie entre la version hébraïque traditionnelle, celle qui sert de traduction de base à la traduction française que vous avez sous les yeux, et la version grecque ancienne qui a été faite au 3e ou 2e siècle avant notre ère. Et cette version grecque ancienne, elle nous permet d'accéder, quoique indirectement, au texte hébreu plus ancien. C'est-à-dire que le traducteur grec au 3e ou 2e siècle avant notre ère, il avait un texte hébreu sous les yeux, il a fait une traduction de ce texte hébreu sous les yeux, et ce texte hébreu qu'il avait sous les yeux était sensiblement différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Alors on a retrouvé quelques manuscrits hébreux correspondants à cette version plus ancienne, notamment parmi les manuscrits de la Mer Morte, à Qumran, dans la grotte 4 par exemple. Ce sont des manuscrits fragmentaires, mais qui montrent bien qu'il y avait bien un manuscrit ou une recension, une version hébraïque plus ancienne que celle que nous connaissons aujourd'hui. Elle était plus courte. Plus courte, alors les statistiques, c'est un peu difficile, 12-13% plus courte, à peu près, quelque chose comme ça. C'est quand même pas rien, hein, imaginez. Ça veut dire que dans tous les chapitres, vous avez des versets qui manquent, par exemple. Ou alors régulièrement, vous avez des sections entières qui manquent, ou des expressions qui manquent, tout ça. Donc c'est plus court. Et puis surtout, il y a des chapitres entiers qui ne sont pas au même endroit. Hein. Il y a des déplacements, etc. etc. La structure est différente. Donc ce qui prouve bien qu'il y a eu un travail qui a été fait sur la structure, et c'est d'autant plus facile quand on a des oracles qui sont un peu indépendants les uns des autres, on peut facilement les déplacer parce qu'on trouve qu'ils vont mieux à tel endroit plutôt qu'à tel autre. Ça veut dire aussi que c'est difficile d'établir une structure claire d'ensemble. Je ne peux pas vous dire, voilà, tel et tel chapitre ça donne ceci, de tel et tel chapitre ça donne cela. Parce que si je vous donne cette structure, de toute façon, ça ne vaut que pour la version hébraïque plus tardive, ça ne vaudra pas pour la version plus ancienne du prophète Jérémie. Donc je rentre pas, je ne vais pas rentrer dans des détails très précis de structure, je pense que la structure est assez floue dans le cas du livre de Jérémie. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a des cycles, on alterne des oracles prophétiques de jugement, hein, notamment sur les chapitres 2 à 24, avec ce qui est intéressant, des visions prophétiques et même des actes prophétiques, c'est-à-dire des actes symboliques. Alors ça, c'est très intéressant, c'est quelque chose de récurrent chez Jérémie. À un moment donné, Dieu lui dit « Allez, fais ceci ». Alors il le fait, et cette mise en scène, il y a vraiment une sorte de ce côté théâtral, il fait quelque chose, et Dieu dit « Bien, voilà ce que ça veut dire ». Donc c'est intéressant parce qu'à ce moment-là, le prophète n'a pas que des paroles prophétiques, c'est pas simplement les paroles qu'il prononce, quitte à avoir des métaphores, dans un discours, mais là on n'est pas au niveau du discours, au niveau de la parole, au niveau de l'acte. Et vous allez voir que parfois c'est assez surprenant. Au niveau des thèmes, on retrouve les thèmes que j'ai déjà introduits la semaine dernière avec Isaïe, je ne vais pas trop m'y étendre. L'idée que le peuple d'Israël est l'épouse de Dieu, Dieu et son peuple, Dieu, il y a cette rapport, le rapport entre Dieu et son peuple, c'est un rapport d'époux et d'épouse. Dieu a conclu une alliance avec le peuple, et de la même manière qu'un mari va conclure une alliance avec son épouse, et donc Israël est l'épouse de Dieu, mais une épouse malheureusement infidèle. Autrement dit, une épouse qui est allée voir d'autres divinités, qui est tombée dans l'idolâtrie, etc. Et ça, c'est associé à de l'infidélité, à de l'adultère. Donc vous voyez, chapitre 2, on nous dit, verset 2, « Je me souviens de ta fidélité de jeune fille, de ton amour de jeune mariée, quand tu me suivais au désert, etc. etc. » Et on nous dit, malheureusement, ce n'est plus le cas aujourd'hui. On condamne l'idolâtrie. On retrouve également la thématique contre les responsables du peuple. Vous voyez, verset 8, je suis toujours au chapitre 2, verset 8, « Les prêtres, les spécialistes de la loi, les prophètes. » Vous voyez, on retrouve les trois. Hein. « Les prêtres ne disent pas où est le Seigneur. » les spécialistes de la loi ne me connaissent pas, les bergers se sont révoltés contre moi, les prophètes parlent par le Baal, ils suivent ceux qui n'ont aucune valeur. Donc, vous voyez, on va critiquer les responsables du peuple. Et notamment les responsables religieux. Alors, peut-être pas, parce que quand on parle des bergers aussi, ils sont peut-être aussi responsables politiques. On sait que la figure du berger, c'est une figure royale. Le roi est souvent apparenté à un berger, c'est le berger du peuple. Donc, on critique les responsables, les leaders, si vous voulez, du peuple, qui sont évidemment doublement responsables. D'une part, parce qu'eux-mêmes ne suivent pas, sont désobéissants, mais le pire, c'est qu'ils entraînent le peuple dans la désobéissance. Au verset 21, on nous dit « Je t'avais planté comme un cépage de choix ». Et vous voyez, cette métaphore de la vigne, on l'avait déjà dans Isaïe chapitre 5, on la retrouvera dans Ézéchiel 15, donc c'est aussi une métaphore qui revient régulièrement chez les prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, cette métaphore de la vigne. Évidemment, on va le retrouver également dans le Nouveau Testament, dans les paraboles de Jésus reprennent cette métaphore agricole. Évidemment, c'est très parlant à l'époque. Nous, surtout si on vit dans un contexte urbain, peut-être que le vignoble, ça n'évoque pas grand-chose pour nous. Encore qu'en Alsace, on a quand même du bon vin. Donc il y a quand même une partie de la population qui doit quand même savoir de quoi on parle. Mais évidemment, à l'époque, c'est parlant. On condamne l'idolâtrie, donc, verset 27. « Eux qui disent à un morceau de bois, tu es mon père, et à une pierre, tu m'as engendré. » Donc, il y a ce côté ironique, vous fabriquez des idoles de pierre, de bois, et ensuite vous parlez à ce morceau de bois, vous parlez à ce morceau de pierre que vous avez fabriqué, et vous en faites des idoles et vous les vénérez. Donc, on condamne l'idolâtrie, de la même manière qu'on l'avait fait dans le prophète Isaïe, chapitre 42, par exemple, chapitre 44, on en avait parlé la semaine dernière, il y a cette multiplicité, on nous dit à la fin du verset 28, « Tu as autant de dieux que de villes, ô Judas. » Et je vous avais parlé la semaine dernière de cette notion géographique. On avait parlé également dans le livre des rois avec l'épisode du prophète, pas du prophète, mais du soldat Naaman, qui avait remporté de la terre avec lui pour dire, mais voilà, moi maintenant je veux vénérer le Dieu d'Israël, Yahvé, mais je repars en territoire araméen, et donc je suis censé vénérer le Dieu araméen. Comment est-ce que je fais quand je suis en dehors du territoire d'Israël pour vénérer ce Dieu-là? Eh bien, j'emporte de la terre avec moi. Et cette notion de territorialité des dieux, et effectivement, y compris pour certaines villes. D'ailleurs, il y a des villes, hein, Beth Shemesh, c'est la ville de Shamash, la ville de Shemesh, le dieu solaire. Jéricho, c'est Jéricho, c'est la ville du dieu lune. Dan, c'est la ville de Dan, c'est la ville du dieu Dan, etc., etc. Donc beaucoup de Jérusalem, Urushalimu, c'est une fondation du dieu Shalem. Donc, vous voyez, chaque ville, la plupart des villes ont été fondées, à la base, ont un dieu tutélaire, ce qu'on appelle le dieu tutélaire, c'est-à-dire c'est un dieu qui est associé à la ville. Et évidemment, on est à une époque où on cherche à éradiquer cette multiplicité de dieux. On en avait parlé déjà dans le Deutéronome, on a cette centralité du culte à Jérusalem, un seul lieu de culte, un seul dieu, Yahvé, un seul Yahvé. Dans le Shema Israël, écoute Israël, Yahvé notre Dieu est un seul Yahvé, ça veut dire qu'on ne veut pas qu'il y ait plusieurs Yahvé. Et je vous avais dit à l'époque que dans l'épigraphie, on retrouve des inscriptions où on dit « je te bénis par Yahvé de Théman, par Yahvé de Samarie ». Donc il y a Yahvé, le Yahvé qui est vénéré à Théman, le Yahvé qui est vénéré à Samarie, et là on ne dit pas du tout un seul Yahvé, en l'occurrence le Yahvé de Jérusalem. Alors, les Samaritains ne sont pas d'accord. Eux, ils vont dire que c'est le Yahvé du Mont Garizim, évidemment. Mais il y a cette polémique sur où est-ce qu'on va vénérer, quel Yahvé on va vénérer et à quel endroit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on est à une époque où on cherche à focaliser, concentrer, disons, l'adoration, la vénération d'un seul dieu, Yahvé, et à un seul endroit, Jérusalem. Donc on condamne tout ce qui est idolâtrie, on condamne les autres lieux de culte, etc., etc. Alors, chapitre 3, on compare donc la relation de Dieu avec Israël, toujours à une relation maritale, une relation, donc une femme, Israël est l'épouse, une épouse infidèle, c'est une épouse adultère, et ici on parle même de prostitution. Chapitre 3, verset 1, « Toi qui t'es prostituée avec une multitude de compagnons, tu reviendrais à moi ». Autrement dit, tous les autres dieux qui ont été vénérés, toutes les autres idoles, eh bien à chaque fois ça a été de la prostitution. Tu as profané le pays par ta prostitution, verset 2. Verset 6, as-tu vu ce qu'a fait Israël l'infidèle? Elle est allée sur toute montagne élevée, sous tout arbre verdoyant, et là, elle s'est prostituée. Verset 8, quoique j'ai répudié Israël l'infidèle à cause de tous ses adultères, donc ça c'est, on évoque la destruction du royaume du Nord, Israël, j'ai vu que sa sœur Juda, la traîtresse, n'a pas eu de crainte et qu'elle est allée se prostituer elle aussi. Par sa prostitution bruyante, Israël a profané le pays, elle a commis l'adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, sa sœur Juda la traîtresse n'est pas revenue vers moi de tout son cœur. Vous voyez, on rappelle cette condamnation qu'a déjà du prophète Isaïe précédemment, etc., contre le royaume du Nord, le royaume de Samarie, Israël, et on dit finalement, le royaume du Sud, Juda, Jérusalem, fait pareil. Ensuite, on appelle le peuple à revenir. Donc, vous voyez, il y a toujours dans le discours prophétique, il y a toujours ces différentes parties. Premièrement, on avait déjà parlé la semaine dernière, premièrement, il y a la condamnation du peuple. On met en évidence la culpabilité du peuple. On dit « voilà ce qui ne va pas ». Et on le dit clairement, l'infidélité du peuple. On appelle le peuple à la repentance et on évoque éventuellement la destruction, le châtiment du peuple s'il ne se repent pas, et le salut du peuple s'il se repent. Et là, on appelle ensuite au chapitre 3 avec ce refrain qui revient, reviens. Déjà au verset 12 du chapitre 3, reviens Israël l'infidèle. Verset 14, revenez fils rebelle, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Verset 15, vous voyez, c'est-à-dire que les bergers, ce sont les leaders du peuple, les responsables du peuple. On dit, voilà, je vais changer tous ces responsables qui sont pervertis, je vais en mettre de nouveaux. Verset 18, en ce jour-là, la maison de Juda marchera avec la maison d'Israël. Donc on imagine ce retour du peuple d'Israël et de Juda ensemble, le royaume du Nord, le royaume du Sud. Verset 22, revenez, fils infidèle. Chapitre 4, verset 1er, Israël, si tu reviens à moi. Donc vous voyez, revenez, vous voyez ce refrain qui revient. Verset 4, élément très important, faites-vous circoncire pour le Seigneur, ôtez le prépuce de votre cœur. homme de Juda et habitant de Jérusalem. Donc il est ici question de la circoncision du cœur. On en avait déjà parlé dans le Deutéronome chapitre 30. C'est très important. La circoncision est un élément fondamental, la marque de l'appartenance au peuple. Qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui est central de cette religion de Juda, cette religion judéenne? C'est la circoncision. On a cet héritage, qu'est-ce qu'on a? On a les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob, avec la circoncision. Et puis on a la loi, la Torah de Moïse. Donc ce sont les deux éléments, les deux piliers, si vous voulez, de cette religion judéenne. Les patriarches avec la circoncision, les prophètes, Moïse, etc., avec la Torah. Et là, on a un déplacement de cette circoncision, non pas physique, mais cette circoncision du cœur, cette circoncision morale. On y reviendra dans le Nouveau Testament, dans Romains chapitre 2, puisqu'effectivement, c'est une question qui sera d'actualité lorsque les premiers disciples de Jésus seront pour la plupart des Judéens, donc circoncis de fait, mais pour certains non-judéens. Et là, la question se posera en disant, mais est-ce que les croyants non-judéens doivent également être judéens? Est-ce qu'ils doivent adopter le judaïsme dans son ensemble, y compris la circoncision? Est-ce qu'il faut vraiment les circoncire physiquement? Et là, quelqu'un comme Paul va pouvoir revenir sur ces textes-là, du Deutéronome, de Jérémie, de dire, attendez, les prophètes eux-mêmes, nous, et Moïse eux-mêmes, lui-même, nous disent que ce qui compte, c'est la circoncision du cœur, donc n'allons pas circoncire ces gens qui ne sont pas judéens. Il n'y a pas besoin d'adopter l'ensemble des traditions du judaïsme pour suivre Jésus. Et ça, ça va marquer le tournant. Alors ça prendra du temps. Il faudra attendre le deuxième siècle de notre ère et même jusqu'au troisième siècle de notre ère pour que vraiment il y ait une séparation entre d'un côté le rabbinisme, qui sera cette nouvelle mouvance du judaïsme qui va prendre la tête du judaïsme de l'époque, et puis ce qui sera appelé le christianisme. Au chapitre 4, on revient regarder sur les rois, les prêtres et les prophètes, verset 9. Chapitre 4, verset 9. Le roi et les princes perdront courage, les prêtres seront atterrés, les prophètes seront stupéfaits. Vous voyez, roi, prêtre, prophète, on a les différentes catégories de responsables du peuple. On retrouve également la théologie du reste dont je vous avais parlé la semaine dernière, verset 27, chapitre 4, verset 27. Tout le pays sera dévasté, mais je n'exterminerai pas. Autrement dit, il n'y aura pas une destruction totale. Dieu va, certes, dévaster la terre, châtier toute une partie du peuple, mais cette destruction n'est pas définitive. Il ne s'agit pas d'un châtiment de la fin des temps, disant « c'est fini à tout jamais, je vous oublie, je claque la porte et c'est fini ». Non. Quand Dieu punit, il laisse toujours un reste pour pouvoir restaurer le peuple. On retrouve ça, chapitre 5, verset 10, « détruisez mais n'exterminez pas ». Chapitre 5, verset 15, il est question de l'exil. Donc on annonce l'exil, on l'avait déjà eu dans Isaïe. On dit, voilà, le châtiment, ça va être la destruction de la terre et l'exil. Et cet exil, il est caractérisé par le fait que les peuples vont être dans une nation étrangère, une nation donc d'une langue étrangère. Et on nous dit, verset 15, une nation dont tu ne connais pas la langue. Et ça, on l'avait déjà eu dans Isaïe 28, Isaïe 33. Et cette notion d'être parmi un peuple d'une autre langue, évidemment, c'est un choc culturel, linguistique. On est là, on comprend même pas, on est déporté à des milliers de kilomètres, et on entend parler une langue, on comprend pas la langue. Imaginez le choc, on est complètement perdu. C'est un geste fort, un élément symbolique. Et c'est très intéressant parce que ce sera repris dans le Nouveau Testament, dans Corinthiens chapitre 14, à propos du parler en langue, la glossolalie. Les premiers chrétiens reçoivent l'Esprit Saint, parlent en langue, ce sont d'autres langues, et Paul va utiliser ça comme à reprendre ce que le prophète Isaïe et Jérémie disent, en disant, voilà, les Judéens qui seront là, qui entendront ces disciples de Jésus parler dans une autre langue, vont être choqués, en disant, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et ce sera un signe, tout comme ici, pour le peuple d'Israël et de Juda, le peuple d'Israël chez Isaïe, le peuple de Juda chez Jérémie, eh bien, le fait d'entendre des gens parler une autre langue, d'une langue qu'on ne comprend pas, eh bien, ce sera un signe, un présage, un signe de « attention, il se passe quelque chose et on est passé à côté, on a loupé le coche ». Eh bien, de la même manière, ces gens qui vont entendre la glossolalie, se diront on est passé à côté de quelque chose, on a loupé le coche. Et ce coche, c'est bien sûr la Pentecôte, l'avenue de l'Esprit Saint, et le fait que l'Esprit Saint accorde cette multiplicité des langues. Et ce sera peut-être un électrochoc pour ces gens de dire mince, on est passé à côté de quelque chose, et ça leur servira de signe. Voilà. Alors je passe ensuite les chapitres qui suivent. Il faut qu'on avance évidemment dans le livre de Jérémie. Quelques petites notes rapides au chapitre 7. Il est question de la verset 31 de la vallée du fils de Hinnom. C'est la fameuse Géhenne, Gehinnom. En hébreu, c'est la vallée de Hinnom. C'est une vallée qui est juste au sud de Jérusalem. Et là, elle est associée au lieu où l'on jette au feu fils et fille. Donc, imaginez les atrocités qui pouvaient prendre place dans ce lieu, cette vallée. Et c'est pour ça que cette vallée est associée au feu. On met au feu des enfants. Et Jésus parle de cette vallée comme étant une vallée de feu et de jugement. Alors, certains passages sont en double. Au chapitre 8, les versets 10 à 12, par exemple, se retrouvent déjà, je ne l'ai pas signalé tout à l'heure, mais déjà au chapitre 6, les versets 12 à 15 du chapitre 6, c'est du copier-coller avec le chapitre 8, versets 10 à 12. Vous voyez, ils ont été dédoublés. On les retrouvera un peu plus loin. Si vous regardez le chapitre 10, les versets 12 à 16 des chapitres 10, et ben en fait, vous les retrouvez au chapitre 51, versets 15 à 19. Vous voyez, je vous avais signalé comme ça qu'on retrouve. Donc ça, c'est des éléments, c'est des indicateurs clairs de phase rédactionnelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a certainement des paroles de Jérémie qui circulent, des oracles comme ça qui sont intégrés. De temps en temps, on va les mettre là. De temps en temps, on dit maintenant, moi, je les verrai plutôt ailleurs. Et puis finalement, parfois, elles se retrouvent à deux reprises. Donc on a des doublés. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce doublé au chapitre 10, il est précédé au verset 11 d'un verset qui est en araméen. Chapitre 10, verset 11, « Vous leur direz, les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre disparaîtront de la terre et de dessous le ciel. » En fait, ce verset est en araméen. Alors si vous lisez le texte en hébreu, c'est drôle parce que d'un seul coup, sans prévenir, vous lisez, vous ne comprenez pas, c'est bizarre, je ne comprends pas, en fait c'est de l'araméen. Alors évidemment, il y a une raison pour laquelle c'est en araméen, puisqu'on s'adresse aux autres peuples et la langue international de l'époque, c'est l'araméen. L'hébreu n'est parlé, à l'époque de Jérémie, l'hébreu n'est parlé qu'à Jérusalem et aux alentours. C'est un petit dialecte, c'est peut-être comme l'alsacien qui n'est connu qu'en Alsace, alors que partout ailleurs en France, on parle le français, par exemple. Voyez, c'est vraiment l'hébreu, c'est une petite langue locale qui est parlée à Jérusalem et à quelques dizaines de kilomètres aux alentours. Voyez, c'est un rayon de quelques dizaines de kilomètres, alors que partout, à des centaines ou des milliers de kilomètres, tout le monde parle araméen. On parle araméen depuis jusqu'en Mésopotamie, on parle araméen en Égypte. Ce sera encore plus le cas un siècle après Jérémie. Un siècle après Jérémie, alors là, l'araméen est parlé partout. Mais déjà à l'époque, disons, c'est une... Donc le chapitre 10 nous parle encore des idoles. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Verset 3, on parle du bois, de l'argent, de l'or, des clous. Et on dit, très bien, vous faites tout ça avec des clous, etc. Et puis verset 5, ils sont comme un palmier d'argent martelé. Ils ne parlent pas, il faut les porter. Ils ne peuvent pas faire un pas. Vous faites des statuettes qui ont des jambes, mais elles ne peuvent pas marcher. Enfin, donc il y a ce côté, cette ironie, on se moque vraiment de cette idolâtrie. En disant, il n'y a pas de souffle en elle. Vous voyez, verset 14, ces idoles ne sont que mensonges, il n'y a pas de souffle en elle. Alors, on trouve des actes symboliques. Au chapitre 13, va t'acheter une ceinture de lin, tu la passeras à tes reins, tu ne la mettras pas dans l'eau, cache-la dans la fente d'un rocher, verset 4. Etc. Donc il lui dit voilà, donc il y a une sorte de un sketch, si vous voulez, une mise en scène. Et ensuite il y a une explication, évidemment, verset 9, c'est de la même manière que je détruirai l'orgueil de Juda, etc. Verset 10, ce peuple mauvais qui refuse d'écouter mes paroles, qui va selon l'obstination de son cœur et qui suit d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux, qu'ils deviennent comme cette ceinture qui n'est plus bonne à rien. En effet, verset 11, comme un homme attache une ceinture à ses reins, ainsi je m'étais attaché toute la maison d'Israël et toute la maison de Juda, oracle du Seigneur, pour qu'elle soit mon peuple, mon nom, ma louange et ma splendeur, mais ils n'ont pas écouté. Donc, voilà, il dit, voilà, tu prends cette ceinture, et bien voilà, c'est un acte prophétique, un geste prophétique, de la même manière que tu mets cette ceinture, moi j'avais mis Israël autour de, et Juda autour de mes reins. Là, on va retrouver un peu plus loin, si vous regardez, il me semble déjà au chapitre 16, voilà, vous tournez vos pages, chapitre 16, vous avez de nouveau cet acte symbolique, cet acte prophétique. La parole du Seigneur me parvint, tu ne prendras pas de femme, tu n'auras en ce lieu ni fils ni fille. Et ce célibat que Dieu demande à Jérémie, eh bien, il est prophétique. Il a cet acte fort, eh bien, il montre justement cette séparation entre Dieu et Israël, qui était son épouse, eh bien non. Eh bien justement, cette séparation, cette infidélité du peuple, cette condamnation du peuple, elle est là ici symbolisée par un célibat. Alors c'est pas drôle du coup d'être prophète, hein. Moi je vous dis, si vous envisagez une carrière de prophète, réfléchissez-y bien, parce que voilà, hein, ça peut, c'est pas toujours... Alors, évidemment, ce texte-là n'a pas pour but de vanter le célibat comme étant un mode de vie que chacun doit vivre. Il s'agit d'un acte symbolique qui n'engage que Jérémie, en l'occurrence, hein. Mais vous savez qu'il y a toute une discussion dans 1 Corinthiens 7, notamment sur la question du célibat. Est-ce que c'est pareil dans 1 Corinthiens 7? Est-ce que c'est temporaire? Est-ce que c'est général? Etc., etc. On condamne le peuple qui n'observe pas le sabbat, chapitre 17, verset 22, « Faites du sabbat un jour sacré, etc. etc. » Évidemment, on condamne le peuple qui est désobéissant, qui peut malgré tout continuer à observer, d'un point de vue superficiel, la loi, faire les sacrifices, etc. Mais en fait, son cœur n'y est pas. Et donc, on retrouve ça, je ne m'étends pas là-dessus, on l'a déjà dit la semaine dernière avec Isaïe. Chapitre 18, de nouveau, un geste symbolique. Descend chez le potier, chapitre 18. Alors pour comprendre ce qui se passe, évidemment, il faut aller jusqu'au... il va y avoir une métaphore, là. Verset 6, comme l'argile dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Donc vous voyez, c'est cette métaphore, Dieu est le potier et Israël est l'argile. Et c'est le potier qui façonne l'argile et donc Dieu façonne Israël. Et du coup, on retrouve ça au chapitre 19, chapitre suivant. Dieu dit, va acheter une cruche chez un potier. Et donc là, il va parler, il présente cette cruche, il va la façonner. Enfin, non, elle est déjà faite, c'est le potier qui l'a faite. Et il montre, et il parle au peuple, et il dit, ils m'ont abandonné, verset 4. Et il dit ensuite, verset 10, tu briseras ensuite la cruche sous les yeux des hommes qui seront allés avec toi. Et tu leur diras, verset 11, ainsi parle Yahvé des armées, c'est ainsi que je briserai ce peuple et cette ville, comme on brise une poterie qui ne peut plus être réparée. Donc vous voyez, Dieu est le potier, Israël c'est l'argile, avec cette argile il fait un pot, une poterie, un vase, qui donc est utile à quelque chose, mais finalement le peuple s'est rebellé, autrement dit il est devenu comme un vase dont on ne peut plus rien faire, qu'est-ce qu'il fait? Il le brise. Et ça vous rappelle Isaïe 5, où on avait dit, voilà, j'ai planté une vigne, j'en attendais des bons fruits, seulement, voilà, elle n'a pas produit de bons fruits, ben, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va tout dévaster et puis on va recommencer, quoi. Et donc, imaginez ce geste, hein, il brandit cette cruche, ce vase, et dit, voilà, Dieu a fait de vous ce vase, seulement, voilà, vous êtes comme ce vase qui est devenu, ben, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il le jette par terre, c'est bruyant, il y a un côté spectaculaire, théâtral, dans ces gestes qu'on retrouve régulièrement chez Jérémie. Alors on a, dans les chapitres qui suivent, on a une petite section malgré tout un peu historique qui, à mon avis, anticipe ce passage au chapitre 25. Vous voyez dans le chapitre 22 notamment, 21-22, on retrouve déjà un petit peu des éléments historiques. Il est question de Sédécias, du roi Sédécias, chapitre 21. Chapitre 22, il est question du roi Shalloum, verset 11, du roi Joachim, verset 18, du roi Konia, chapitre 24. Verset 24, donc on est déjà dans ces chapitres-là, vers une transition, on transite déjà vers des éléments plus ancrés historiquement. Hein. Je vous ai dit, on approche cette deuxième partie à partir du chapitre 25. Donc, mais là, on y est déjà presque, et on voit qu'on est, il y a quand même une construction du prophète Jérémie où, on, petit à petit, là, vous voyez, on avait des discours très, très théoriques. Hein. On peut dire que ces premiers chapitres, la première section, elle est très théorique. On pose la condamnation du peuple. Qu'est-ce qui ne va pas? Et notamment l'idolâtrie et l'infidélité, évidemment, et les responsables du peuple, tout particulièrement. Et en particulier les responsables du peuple, qui, et avec cette transition, avec du coup cette attente vers de nouveaux bergers, et en particulier au chapitre 23, verset 5, les jours viennent, déclaration du Seigneur, où je susciterai à David un germe juste. Il règnera en roi et prospérera, il agira dans le pays selon l'équité et la justice. En ces jours, Judas sera sauvé. Donc vous voyez ici, on attend le fils de David. Alors ça, ça vous rappelle Isaïe chapitre 11. On avait déjà hein, le rejeton de Jessé, etc., etc. Donc il y avait déjà toute cette théorie, cette idéologie, si vous voulez, de l'attente du roi qui sera un bon roi, fils de David, qui tranche avec ceux qui ont été mentionnés auparavant. Hein, Sédécias, Shalum, Joachim, Konia, ce sont tous des descendants de David. Mais ce sont des mauvais rois. Donc, on vient, il y a un contraste qui est établi entre ces mauvais rois, et les derniers rois de Juda sont vraiment mauvais. Ils s'enchaînent, il n'y en a pas un pour racheter l'autre. Et on dit, nous, on attend un bon roi, fils de David. Et on l'appellera Adonai Tzidkenu, c'est-à-dire Yahvé, ou Yahvé Tzidkenu, Yahvé est notre justice. Et c'est intéressant parce que dans Isaïe également, il y avait des noms, chapitre 7, 8, 9, on donnait des noms, Shear Yashuv, Immanuel, bah Emmanuel, hein, le fameux Emmanuel dont on entend parler à Noël, Maher Shalal Hashbaz, etc., etc. Donc vous voyez, il y avait les noms de cet enfant, de la naissance prophétique, etc. Donc là, on retrouve cette idée-là ici également. Donc vous voyez que petit à petit, après... on pose vraiment des oracles contre le peuple sur toute cette grande première partie du livre de Jérémie, où on retrouve toutes ces thématiques de jugement, de condamnation et d'appel à la repentance. On condamne notamment les responsables du peuple. On commence à nommer précisément, vous voyez, dans les chapitres, à partir du chapitre 21, etc., on commence à nommer ces fameux rois contemporains de Jérémie en disant que ce sont des mauvais rois. On attend... On prophétise la venue d'un nouveau roi, donc cette attente messianique, davidique. Et puis, on va pouvoir enchaîner vers cette deuxième partie. Alors, cela dit, avant, on condamne les prophètes. Alors, le chapitre 23 est très intéressant. On a un chapitre qui condamne les faux prophètes, donc pas simplement les rois, mais également les prophètes. On a des prophètes, des condamnations qui sont terribles. Hein, et ils sont associés aux prêtres. Hein, verset 11, prophètes et prêtres. Donc, vous voyez, on met ensemble. Hein, mais le mot prophète apparaît au verset 9, verset 11, verset 13, verset 14, verset 15. À nouveau, verset 15, c'est par les prophètes de Jérusalem que la profanation s'est répandue dans tout le pays. Vous voyez, attention, hein, ils sont responsables. C'est pas simplement qu'ils n'ont pas empêché la profanation, c'est même, au contraire, ils l'ont propagée. Verset 16, n'écoutez pas les paroles des prophètes qui parlent en prophète pour vous. Ils vous abusent par des discours futiles. Ils ne racontent pas ce qui vient de la bouche du Seigneur, mais les visions de leur propre cœur. Verset 21, je n'ai pas envoyé ces prophètes. Je ne leur ai pas parlé et ils ont parlé en prophète. Verset 24, quelqu'un peut-il se cacher dans une cachette sans que je le voie? Est-ce que je ne remplis pas le ciel et la terre? Autrement dit, c'est pas la peine de vous cacher. Verset 25, j'ai entendu ce que disent les prophètes qui annoncent le mensonge en mon nom, en disant, j'ai fait un rêve, j'ai fait un rêve. Et c'est pas Martin Luther King ici, hein. C'est vraiment, les prophètes viennent en disant, voilà, Dieu m'a parlé, j'ai fait un rêve, j'ai fait une vision, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit Yahvé, et c'est pas vrai du tout. Bon, ça arrive encore aujourd'hui, hein, malheureusement. Ça, c'est ce qu'il y a de plus terrible. Hein. Moi, ça ne me dérange pas en tant que tel qu'il y ait des prophètes aujourd'hui. Ce qui m'embête, ce sont les faux prophètes. Et j'avoue que je suis un petit peu dubitatif quand je vois les grandes affiches qui annoncent la venue du prophète Intel, venu de je ne sais où. Et on voit les affiches et un peu la superstar, il a un micro à la main, etc. Donc ça, on a beaucoup ça dans les milieux charismatiques et pentecôtistes et tout ça. Et ça ne me dérange pas qu'il y ait des prophètes. Tant que ce sont des vrais prophètes, tant que ce sont des... voilà. Et le problème, c'est ça. Hein, c'est les gens, et ça va très vite. Et les gens, moi, j'ai connu, y compris dans des facs de théologie ou dans des instituts de formation en théologie, instituts bibliques, où des étudiants viennent voir des étudiantes en disant « J'ai fait un rêve et Dieu m'a dit tu serais ma femme, par exemple. » Bref, voilà. Donc... ça se passe même chez nous, ici à Strasbourg. Donc, méfiez-vous des faux prophètes. Donc voilà, il est question, verset 31, « Je m'oppose, déclaration des seigneurs, aux prophètes qui, de leur propre langue, fabriquent une déclaration divine. » Donc c'est fabriqué, c'est faux. « Je m'oppose, déclaration du Seigneur, aux prophètes, verset 32, qui annoncent des rêves mensongers, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leurs mensonges et leur témérité. » Alors que moi, je ne les ai pas envoyés. Verset 34. « Contre aux prophètes, aux prêtres, ou à celui du peuple qui dira, vous voyez, on associe prophète et prêtre, hein, qui dira sentence du Seigneur, je lui ferai rendre des comptes à lui et à sa maison. » Ouch. Voilà. Alors, chapitre 24, on a encore ces aspects, ces visions, ces métaphores. « Le Seigneur me fit voir deux corbeilles de figues. » Et là, vous voyez, il y a deux corbeilles. Donc, une où les figues sont très bonnes et l'autre où les figues sont très mauvaises. Et donc, cette vision, cette métaphore, là encore, vous voyez, c'est très imagé dans le livre de Jérémie. On dit, bien, c'est très bien, « Les bonnes figues, verset 5, je regarderai favorablement les exilés de Juda, je veillerai à leur bonheur, je les ramènerai, verset 6. » Vous voyez, d'une part. Verset 8, quant aux figues mauvaises, eh bien, c'est ainsi que je traiterai Sédécias, roi de Juda, ceux qui sont restés dans ce pays, ceux qui habitent en Égypte, je ferai d'eux un sujet de terreur. Donc, il y a les bonnes figues et les mauvaises figues. Les bonnes figues, ce sont ceux du peuple qui sont restés fidèles, je les ramène, je les restaurerai, et les mauvaises figues, eh bien, je les détruirai. Le chapitre 25 est donc cette transition. On a un ancrage historique, on a des dates, des noms, des années. 23 ans que la parole, il dit verset 3, depuis la 13e année de Josias jusqu'à ce jour, voilà 23 ans que la parole du Seigneur m'est parvenue, je vous l'ai dit inlassablement, je vous l'ai dit et vous n'écoutez pas. Donc à la fois ça sert un peu de résumé, de conclusion à tout ce qui précède, les premiers chapitres du livre de Jérémie, on retrouve toute la thématique, on fait une synthèse géante, hein, sur quand même une vingtaine de chapitres du contenu du ministère prophétique et du discours prophétique, et ça fait 23 ans et ça ne marche pas. Voilà, bref, que chacun de vous revienne, verset 5, donc là encore on condamne. Ne suivez pas d'autres dieux, verset 6, etc., etc. Donc c'est à la fois une conclusion et à la fois ça sert de transition avec la deuxième partie du livre de Jérémie qui sera cette fois-ci beaucoup plus ancrée dans des dates. Alors au chapitre 25, on trouve également la mention des 70 ans, verset 11. C'est très important. Une mention que vous retrouverez dans le livre de Daniel. Vous pouvez aller faire un tour dans Zacharie, chapitre 1er également. On nous dit, lorsque ces 70 ans seront accomplis, je ferai rendre des comptes au roi de Babylone. Alors vous retrouverez ça aussi dans 2 Chroniques, chapitre 36. Donc ces 70 ans, c'est grosso modo les 70 ans d'exil à Babylone. Alors en fait, c'est peut-être pas tout à fait 70 ans, mais 70, ça sonne bien. C'est des chiffres symboliques, vous savez, il y a des chiffres 7, 12... et puis tous les multiples, 24, 70, tout ça, 144, tout ça, c'est des chiffres qui symboliques, si vous voulez. Et en plus, ça va correspondre au nombre de sabbats que la terre n'a pas pris. C'est-à-dire que le peuple aurait dû respecter les sabbats d'année. On exploite la terre pendant 6 ans et la 7e année, on va la faire poser. Mais le peuple ne l'a pas fait, donc ça explique, et il ne l'a pas fait grosso modo pendant un demi-millénaire, donc 490 ans, si vous voulez, donc 7 fois 7, 49, donc ça fait 70 années. Hein, tous les 7 ans, il y aurait dû y avoir une année, donc il y a 70 années, donc c'est ces 70 ans que la terre va être laissée en friche, les 70 ans d'exil à Babylone. Donc tout ça, on arrive à interpréter cette période d'exil, on arrive à lui donner un sens, on arrive à lui donner des chiffres qui font sens, etc. Donc c'est... voilà. Alors à partir du chapitre 26, donc, vous allez voir, à chaque fois, on a des dates. Voyez, chapitre, au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, cette parole parvint de la part du Seigneur. Et on va retrouver la même chose, chapitre 27, au commencement du règne de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole parvint à Jérémie de la part du Seigneur. Voyez ce changement, chapitre 28, la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, le 5e mois de la 4e année, Anania, fils d'Azur, le prophète de Gabaon, me dit, etc. etc. Voyez, on retrouve ces références historiques régulièrement dans ces chapitres-là, chapitre 32, « Parole qui parvint à Jérémie de la part du Seigneur la 10e année de Sédécias, roi de Juda, c'était la 18e année de Nabucodonosor. » On retrouve ça régulièrement. Chapitre 33, « La parole du Seigneur parvint à Jérémie une deuxième fois pendant qu'il était encore détenu dans la cour de la garde. » Donc on vous dit à quel moment, qu'est-ce qui se passe, quels sont les événements. chapitre 34, parole qui parvint à Jérémie de la part du Seigneur pendant que Nabuchodonosor, roi de Babylone, avec toute son armée, tous les royaumes, etc., faisait la guerre contre Jérusalem. Chapitre 35, parole qui parvint à Jérémie de la part du Seigneur au jour de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. Chapitre 36, la quatrième année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, cette parole parvint à Jérémie de la part du Seigneur. Vous voyez, toute cette section-là, on voit toutes ces références historiques qui sont récurrentes. Donc on voit bien, il y a une rupture nette de style au chapitre 25, dans les chapitres qui suivent. Alors ce qui n'empêche pas de retrouver des actes symboliques. Par exemple, au chapitre 27, vous retrouvez cet acte symbolique. Verset 2, « Fais-toi des liens et des barres de joug et mets-les sur le cou. » Donc les jougs, c'est ce qu'on met sur les bœufs pour qu'ils tirent. Voilà. Donc c'est ce qu'on met sur la nuque. Et donc il fait ça, et tu en enverras au roi d'Édom, au roi de Moab, etc., etc. Et tu leur diras, verset 5, « C'est moi qui ai fait la terre, et je donne la terre à qui me convient. » Autrement dit, les rois ne sont finalement que des instruments, comme un propriétaire terrien à des bœufs qui lui servent à labourer son champ, etc. Verset 11, « Mais à la nation qui placera son cou sous le joug du roi de Babylone et qui se soumettra à lui, j'accorderai le repos sur sa terre. » Donc il invite le peuple à se soumettre au roi de Babylone. Il dit voilà, de la même manière que toi, Jérémie, tu mets sur ton cou ce joug, et bien en fait le peuple doit se soumettre à Babylone, parce qu'en fait, Babylone est un instrument entre mes mains. Alors qu'en fait, le peuple ne veut pas faire ça. Au moment où les Babyloniens arrivent, le peuple va fuir en Égypte. Et Dieu ne veut pas que le peuple fuit en Égypte. Dieu veut que le peuple se soumette à Babylone, accepte l'exil, et revienne ensuite pour restaurer. Alors ensuite, il y a encore la polémique par rapport aux faux prophètes, verset 9, chapitre 28, verset 9. « Si un prophète annonce que tout ira bien, c'est quand viendra ce qu'il a annoncé qu'il sera reconnu comme un prophète vraiment envoyé par le Seigneur. » Autrement dit, les faux prophètes disent que tout ira bien, alors qu'en fait c'est faux. Et il y a une opposition donc avec le prophète Hanania. Alors ça, c'est vraiment intéressant, parce que dans la première partie, on avait une condamnation générale des faux prophètes. On avait le discours théorique, voilà ce que les faux prophètes font. Là, on a des illustrations, on a des exemples concrets. On a le nom d'un prophète, Hanania, on a l'exemple de ce qu'il dit, en quoi il s'oppose à Jérémie. Jérémie dit « il faut vous soumettre aux Babyloniens ». Hanania dit « non, pas du tout, tout ira bien ». Jérémie dit « les Babyloniens vont l'emporter », les faux prophètes disent « non, tout ira bien », etc. Jérémie va dire « il ne faut pas aller en Égypte ». Les autres faux prophètes diront « si, il faut aller en Égypte, c'est là qu'on sera en sécurité », etc., etc. Au chapitre 29, on a une lettre que Jérémie envoie au reste des anciens qui avaient été exilés, nous dit-on, chapitre 1er, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple, etc. Donc il y a le reste, encore théologie du reste. Ils ont été exilés à Babylone. Une partie seulement du peuple est exilée à Babylone au début. Et donc lui-même n'est pas, il est resté à Jérusalem et il leur écrit. Et alors c'est une lettre d'encouragement. Il leur dit, voilà, bâtissez des maisons et habitez-les, verset 5, plantez des jardins, mangez-en, mariez-vous, verset 6, multipliez-vous là où vous êtes et ne diminuez pas, recherchez de la paix de la ville où je vous ai exilé. Donc voilà, grosso modo, épanouissez-vous là où vous êtes. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, verset 8, car c'est mensongèrement, verset 9, qu'il vous parle. Et il dit, verset 10, dès que 70 ans seront écoulés, j'interviendrai pour vous. Et je vous ramènerai, verset 11, « Je connais, moi, les plans que je prépare à votre intention, déclaration du Seigneur, non pas des plans de malheur, mais des plans de paix. » Alors ce verset est un verset extrêmement important, très connu, cette lettre dans son ensemble, et elle est très importante puisqu'elle rappelle que malgré le malheur que le peuple peut vivre à l'heure actuelle, au moment où ils ont été déportés, ils pourraient penser que Dieu les a abandonnés, et il dit « Mais en fait, pas du tout. Cette déportation, cet exil, en fait, elle est voulue par Dieu, il a des projets, ces projets ne sont pas des projets de malheur, vous pouvez avoir l'impression que Dieu se désintéresse de vous, que Dieu ne vous aime pas, qu'il vous a oublié. En fait, ce n'est pas du tout le cas. Ce qui s'accomplit actuellement, ce sont ces projets. Et ces projets ont peut-être, vous avez peut-être l'impression que c'est des projets de malheur, mais en fait, ce n'est pas vrai, ce sont des projets de bonheur. Et donc, il va les ramener. Et donc, s'ensuit, après ce chapitre 29, des chapitres qui sont très beaux. Les chapitres suivants, à partir du chapitre 29, sont des chapitres qui évoquent le salut, la restauration, la rédemption, la délivrance et la restauration du peuple. Et c'est très, très beau. Chapitre 30, il parle de guérison. Verset 17, « Je te rétablirai, je guérirai tes plaies. » La ville sera rebâtie, verset 18. Verset 22, vous serez mon peuple et moi je serai votre Dieu. Chapitre 31, je serai le Dieu de tous les clans d'Israël. Ils seront mon peuple. Verset 3, je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma fidélité. C'est beau comme verset, non ? Je t'aime d'un amour éternel. Bon, quand même. Donc, il n'y a pas que des jérémiades dans le livre de Jérémie, voyez ? Je suis un père pour Israël, verset 9, Éphraïm est mon premier-né. Donc, c'est vraiment des beaux chapitres, hein ? Jusqu'au chapitre 33. Au chapitre 31, on a également la Nouvelle Alliance. Verset 31, « Je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. » Alors c'est un vocabulaire très important, puisqu'on vient parler de nouvelle alliance, qui vient donc supplanter l'ancienne. Ancienne alliance, nouvelle alliance. Le mot « alliance » en grec, c'est « diatheke », et c'est le même mot qui correspond à un testament, puisqu'un testament, c'est une forme d'alliance, une alliance qui ne prend place qu'après la mort. Et c'est comme ça qu'on a l'expression « ancien testament, nouveau testament ». Vous vous demandez peut-être pourquoi on parle d'ancien et nouveau testament. Eh bien, tout simplement parce qu'il est question ici de « nouvelle alliance », et qu'en grec, c'était traduit « kainédiatheke », c'est-à-dire « nouveau testament ». Donc, le Nouveau Testament des Bibles chrétiennes, c'est en fait cette nouvelle alliance dont Jérémie nous parle, par opposition à l'ancienne alliance. Alors, sauf que, évidemment, d'un point de vue théologique, la question, c'est est-ce que ça veut dire que l'ancienne alliance, elle est caduque ? Est-ce que l'ancienne alliance égale l'Ancien Testament ? Et c'est là le problème, c'est d'avoir nommé toute la Bible hébraïque, l'avoir dit, c'est l'Ancien Testament. Et c'est ce qui a fait dire à des gens comme Marcion au deuxième siècle de notre ère, en disant, mais tout ça, poubelle. Maintenant, nous avons une nouvelle alliance, nous avons des nouvelles écritures, pourquoi nous embarrasser de ces vieilles écritures, des écritures hébraïques ? Alors que la nouvelle alliance, elle est déjà dans l'Ancien Testament. Donc en fait, l'Ancien Testament, c'est déjà le Nouveau Testament. Donc moi, je trouve que c'est une terminologie effroyable. Alors c'est terrible, parce que mon officiellement, je suis maître de conférence en Ancien Testament. Donc c'est mon job. Je suis fonctionnaire payé par l'État pour enseigner l'Ancien Testament. Mais je trouve que c'est absolument détestable comme expression, l'Ancien Testament. Et c'est, en plus, c'est vraiment faux. C'est-à-dire que la nouvelle alliance, le Nouveau Testament, c'est déjà l'Ancien Testament contient déjà la nouvelle alliance. Donc, c'est déjà le Nouveau Testament. Donc, moi, j'enseigne déjà le Nouveau Testament. Tant pis pour le titre. Voilà. Non, je préfère, vaut mieux parler de Bible hébraïque. C'est la Bible, point. Et je vous disais tout à l'heure, quand il était question de la circoncision du cœur, dans Romains 2, c'est déjà dans le Deutéronome, c'est déjà dans Jérémie, etc. Vous avez déjà tout ça, c'est déjà, en fait, dans la Bible hébraïque. C'est quand même extraordinaire, hein. Il dit « Je mettrai ma loi au-dedans d'eux », verset 33, « Je serai leur Dieu et eux, ils seront mon peuple ». Donc il y a encore cette notion d'appropriation. La loi, elle est intériorisée. Et c'est cette circoncision du cœur dont on parlait précédemment. « Je pardonnerai leurs fautes, je ne me souviendrai plus de leurs péchés », verset 34. Il est question de la Nouvelle Jérusalem, verset 38. Alors, il y a toute une littérature qui s'est développée autour de la Nouvelle Jérusalem. On y reviendra dans Ézéchiel. Ézéchiel va abondamment développer cette reconstruction de Jérusalem, et pas une reconstruction historique à l'époque d'Esdras-Néhémie, mais une reconstruction eschatologique, c'est-à-dire à la fin des temps. Et il y aura donc cette section d'Ézéchiel. On y reviendra au moment-là. Alors, on a aussi des actes symboliques encore. On est toujours chapitre 32, verset 7. 7, 8, etc. Achète mon champ. Quelqu'un vient trouver Jérémie en disant achète mon champ. Et Dieu lui dit oui, vas-y, achète le champ. Et c'est un geste symbolique. Verset 15. Car ainsi parle Yahvé des armées, le Dieu d'Israël, on achètera encore des maisons, des champs et des vignes dans ce pays. C'est un symbole d'espoir. C'est-à-dire que si j'achète quelque chose, c'est que je me projette vers l'avenir. Si je crois que je vais mourir demain, je ne vais pas faire des investissements immobiliers, si vous voulez. Bon. Voilà, je peux faire un petit clin d'œil à ceux qui travaillent dans l'immobilier, par exemple, et qui pourraient être inquiets de la fin des temps. Non, 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 vous pouvez continuer à acheter et vendre. Alors, donc vous voyez, ces chapitres, c'est des très beaux chapitres qui nous parlent de cet espoir, de ce renouveau, de David. Là encore, hein, il en a été question précédemment. On retrouve au chapitre 33, verset 15, « En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer pour David un germe de justice. » Verset 17, « David aura toujours un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. » Voyez, verset 20, « Si vous pouviez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, de telle sorte que le jour et la nuit n'arrivent plus en leur temps, alors elle pourrait aussi être rompue, mon alliance avec David. » Autrement dit, c'est impossible. Mon alliance avec David, tant qu'il y aura le jour et la nuit, c'est une alliance éternelle. Et c'est ça, ce sont ces textes-là qui forgent l'espérance messianique à l'époque de Jésus. On dit, nous, on veut un roi qui soit fils de David. Or, au deuxième siècle avant notre ère, au premier siècle avant notre ère, ce sont des rois asmonéens, ils ne sont pas descendants de David. Ensuite, à la fin du premier siècle avant notre ère, c'est le roi Hérode qui est roi, il n'est pas descendant de David. Et donc, plus il y a tous ces rois qui ne sont pas descendants de David, plus les gens lisent ces textes, une partie, pas tous les judéens, mais une partie du judéen lisent ces textes en disant non, nous attendons un descendant de David. Alors, je ne peux pas raconter toutes les histoires, c'est triste, hein, mais là, il ne nous reste que quelques minutes. Au chapitre 36, il y a un chapitre très important qui nous parle de l'histoire du livre rouleau, qui est très intéressant, où on voit que donc on demande de mettre par écrit. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est un chapitre qui nous montre bien la mise par écrit des oracles prophétiques. On demande de mettre par écrit, et c'est là que le fameux Baruch arrive, verset 4, le scribe de Jérémie, Baruch, fils de Neria. Alors c'est très drôle parce qu'il y a quelques années, quelqu'un m'a montré un sceau qui voulait que j'authentifie, et ce sceau était celui de Baruch, fils de Neria. Et alors j'ai dit, c'est un faux, parce que le sceau était écrit à l'envers. J'ai dit, mais si le sceau avait été authentique, imaginez, je tenais entre mes mains le sceau qui aurait appartenu à Baruch, fils de Neria. Mais bon, c'est un... Hélas, pour le collectionneur, c'était un faux. Donc, on voit qu'on écrit dans un rouleau. Alors, on vient lire ce rouleau roi. Évidemment, c'est des oracles de condamnation. C'est peut-être les chapitres qu'on a vus précédemment, ou la première partie du livre, je ne sais pas. Et du coup, on nous dit, verset 23, « À mesure que Yehudi lisait 3 ou 4 colonnes, le roi les découpait avec le canif du scribe. » Alors, en fait, c'est très intéressant, parce que les rouleaux sont faits de feuilles. Et en général, d'après ce qu'on voit à Qumran, c'est que souvent, ces feuilles, elles contiennent justement 3 ou 4 colonnes. Donc en fait, quand on nous dit trop, moi quand j'ai lu ça 3 ou 4 colonnes, j'ai tilté. Je me suis dit, ah mais en fait, ça veut dire que c'est les feuilles de parchemin, elles contiennent 3 ou 4 colonnes, donc elles sont cousues. Donc au fur et à mesure, t'as lu une feuille, schlac, je la déchire, je jette au feu. Il lit la feuille suivante, etc. Donc les feuilles sont cousues bout à bout, elles font en général 3 ou 4 colonnes et ça fait des rouleaux. Bon, bref. Donc finalement, on brûle, mais c'est pas grave. On nous dit verset 28, prends un autre rouleau, tu écriras toutes les paroles qui étaient dans le premier rouleau. Donc on voit. Ici, on évoque la mise par écrit d'un livre, qui est le livre de Jérémie, qui est l'ancêtre du livre de Jérémie qu'on a aujourd'hui. Voilà. Alors évidemment, ce n'était pas le livre, puisque dans ce livre, le livre nous évoque la construction du livre. Donc ça ne peut pas être le même rouleau, mais bref. Donc verset 32, Jérémie prit un autre rouleau. Alors ensuite, à partir des chapitres 37 à 43, ce sont des chapitres qui racontent la passion de Jérémie. C'est-à-dire, ça se passe mal pour lui. C'est vraiment ces histoires un peu sordides, ces conflits avec ses Sédécias, on le jette dans une citerne, on nous raconte la chute de Jérusalem, chapitre 39, les gens partent en Égypte, Jérémie veut pas y aller, on l'emmène de force, chapitre 43, en Égypte. Alors, ce sont des chapitres fabuleux. En même temps, ils se lisent très bien parce que c'est du narratif. Hein. Donc, je vous encourage à les lire tout seul. On n'a pas le temps de s'y étendre. Mais c'est une section, là, chapitre 37-43, qui raconte la passion de Jérémie. Et puis, à la fin, donc, ça se termine. Les gens sont réfugiés en Égypte. Jérémie est allé de force en Égypte. Et puis, et c'est là que s'arrête cette section narrative au chapitre 45, avec Baruch. Un message pour Baruch au chapitre 45. Le livre pourrait s'arrêter là, mais au chapitre 46, on a une dernière section qui est constituée des oracles contre les nations. Alors les oracles contre les nations, on avait la même chose dans Isaïe. Donc je vous le signale simplement, 46-51, chapitre 46-51, oracles contre les nations. Et là, ça devient presque un genre littéraire. Hein. Toutes les nations environnantes y passent. On commence par l'Égypte, chapitre 46, 47 les Philistins, 48 Moab... qui c'est qu'on a après 49 Amon, Édom, Damas, Kédar, verset 28, Élam, verset 34, Babylone, chapitre 50. Alors Babylone, là, c'est un gros morceau. Hein. Babylone, vous imaginez, forcément, on est à l'époque où précisément sont les néo-babyloniens. Donc Babylone a un long chapitre 50, 51, etc., etc. Et puis ça pourrait se terminer là, la fin du chapitre 51. Là prennent fin les paroles de Jérémie. Autrement dit, c'est la fin du livre. Et puis vous avez quand même le chapitre 52, qui est un petit appendice historique qui nous raconte que Nabuchodonosor prend Sédécias, dévaste Jérusalem. Donc c'est la chute. On vous raconte, si vous voulez, la chute de Jérusalem. Donc c'est plus ou moins le deuxième livre des Rois, chapitre 25. Vous allez voir, c'est voilà. De même que dans Isaïe, vous aviez cette petite section, chapitre 36-39, qui était du copier-coller du deuxième livre des Rois. Là, c'est pareil. On s'est dit, tiens, ce serait bien d'avoir le deuxième livre des Rois, chapitre 25. Donc, c'est un petit appendice historique. Donc, vous voyez comment on continue à construire le livre de Jérémie, comment on remanie. Je vous avais dit qu'en grec, les chapitres sont pas... Enfin, il y a des passages qui ne sont pas toujours là ou pas toujours au même endroit. Mais là, vous avez grosso modo la teneur du livre de Jérémie. Et nous nous arrêtons aujourd'hui pour ce cours. Voilà. On se revoit la semaine prochaine. On continue avec le prophète Ézéchiel. Bonne semaine.